Sécur, épisode technique. Je suis accompagné de Arnaud. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour, moi je suis Arnaud Pilon. Je suis responsable des activités de réponse aux incidents chez Synactive, qui traite tout type d'incidents et dont les incidents dans le cloud.
Oui, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va aborder comment on va gérer un incident dans le cloud, parce que ça a des particularités, ça a des choses similaires aussi, mais c'est important de maîtriser ces éléments-là, les particularités, tout ce que ça va. Fait, je vais te laisser commencer à définir qu'est-ce que c'est un peu, puis d'expliquer qu'est-ce qu'un incident cloud et qu'est-ce que ça le distingue d'ailleurs d'un incident classique.
Alors, le cloud, de mémoire, hein, ça fait 20 ans que je suis dans l'infosec, je me souviens des schémas visio où il y avait toujours un nuage qui était représenté en haut à gauche de ces schémas où on mettait les serveurs. Je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, c'est toujours un peu l'image que j'ai, c'est pour les DSI, c'est, je mets les serveurs un petit peu là-bas. Et force est de constater que ça s'est aujourd'hui en 2024, ça a beaucoup changé. Et le cloud aujourd'hui, souvent c'est des hébergeurs qui ont des data centers un peu partout dans le monde, qui est d'ailleurs quelque chose qui est difficilement abordable pour une PME ou une grande entreprise, hein, donc c'est aussi un intérêt de ces providers de cloud. Ils fournissent des services, beaucoup de services, et d'ailleurs c'est toujours, moi, je suis de loin, hein, à chaque fois les grandes conférences AWS ou Microsoft, et à chaque fois c'est des nouveaux services, et à chaque fois avec ma casquette d'analyste, je me dis oh là là, ça va être encore des nouveaux noms à prendre, peut-être réinventer, peut-être remarketer, mais il y a beaucoup d'innovations, en tout cas beaucoup de choses qui sortent, et c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu cet effet, je pense, pour les administrateurs ou les développeurs de magasins géants où ils peuvent piocher dans tout un tas de services. C'est des services qui sont souvent résilients, qu'on fait ce que je dis à l'instant, hein, c'est-à-dire qu'ils ont pu choisir de mettre les données un peu partout dans le monde, ce qui est certainement pas sans poser des difficultés par le service juridique. Et c'est des services aussi qui ont la bonne idée de s'adapter un petit peu à la demande, c'est-à-dire d'être scalable. Si j'ai des pics, ce qui est possible de faire, hein, c'est d'augmenter les ressources en compute, en storage, par rapport à des demandes. Et ça, c'est vrai que c'est si on veut le refaire chez soi, même si aujourd'hui, paradoxalement, il y a des choses en open source qui viennent du monde du cloud qui permettent de le faire, ça reste difficile. Et puis, il y a ce côté mise à disposition aussi. Tout est là, il suffit de cliquer. Une carte bleue, un compte bancaire, et puis on fait un petit peu ce qu'on veut dans le cloud, voire même des services qui sont à la pointe, hein. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est vrai que pour un développeur, développer dans un environnement où il a juste des API à portée de main pour faire de la transcription, de la reconnaissance d'image ou que sais-je, ça doit être extrêmement pratique. Et c'est ce qui fait, je pense, le succès. Le business model, c'est de la location. Donc, généralement, on loue de l'espace de stockage, on loue des machines virtuelles sur une durée donnée avec des capacités qu'on peut aussi, encore une fois, ajuster. Tous ces modèles-là sont un peu similaires. Moi, de ma fenêtre, c'est essentiellement AWS, Microsoft aussi, qui pousse un petit peu les choses. Et puis après, globalement, on arrive quand même à une situation où tous les grands providers de cloud offrent à peu près les mêmes services. Et en revanche, ce qu'ils aiment bien faire, c'est changer et avoir leur terminologie. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, on n'est pas du tout sur un aspect technique, mais savoir ce qui est une permission dans l'un, une action dans l'autre, une autorisation sur Azure, c'est quand même un frein, surtout si parfois on tombe sur un provider de cloud assez peu souvent rencontré. On est obligé d'assimiler assez rapidement ce glossaire. Et éventuellement, on en reparlera après aussi le licensing qui peut être... qui peut demander d'avoir fait des études supérieures des fois pour bien comprendre exactement ce qu'a acheté le client.
Ah, c'est une plaie, là, de juste la différence de vocabulaire entre les différents fournisseurs de cloud, ça n'a juste aucun sens. Et ça aide personne, mais tu le mentionnais, puis quand on va arriver dans un incident, c'est d'autant plus problématique, il faut agir rapidement. Et s'il faut réapprendre une terminologie qu'on ne connaît pas pour des choses qui sont similaires, mais pas tout à fait pareilles non plus, en plus, parce qu'il y a des nuances, la gestion des identités chez AWS et Azure est excessivement différente sur comment on va déployer. Et il y a naturellement des incidences sur des potentiels incidents, puisque à ce moment-là, une mauvaise assignation de privilèges peut ouvrir la porte à des problèmes beaucoup plus grands.
Ça peut être une source d'erreur, c'est vrai. Et puis, un dernier point, moi, je trouve qui est important chez avoir en tête, c'est que généralement, les providers de cloud fournissent l'infrastructure, ils garantissent que ça fonctionne. En termes de sûreté de fonctionnement, hein, ce qui est de la redondance électrique, etc., de la ventilation, mais également en termes de sécurité, c'est-à-dire que l'administration de tout ce socle qui normalement est relativement transparent pour les utilisateurs et même les administrateurs fonctionne dans des conditions de sécurité. Ça, c'est important parce que c'est un postulat qu'on a depuis des années hein, quand on manipule ces opérations, ces systèmes-là, pardon. Mais on pourrait imaginer, on verra dans quelques années si finalement ce postulat il était optimiste, il était naïf, parce que je suppose. Alors des fois dans la presse on a quelques remontées, hein, mais ce sont aussi des sociétés qui sont attaquées en permanence. Moi je pense que globalement Microsoft a une grande partie des boîtes aux lettres, hein, et si on met Microsoft, Google voilà, comme cible, c'est certain que en termes de captation de données, d'échange de correspondances, ça doit être extrêmement intéressant pour tout type d'attaquants. Donc on suppose généralement que ce sont des systèmes qui fonctionnent, qui sont sûrs. En revanche, à charge du client de configurer ces systèmes pour qu'ils soient adaptés aux objectifs de sécurité qui s'est fixé. C'est le cas notamment des journaux, c'est le cas des mots de passe, l'authentification, enfin tous ces points-là.
Ouais, c'est le modèle de responsabilité partagée justement où le fournisseur n'a pas l'entière responsabilité même si on utilise ses services. Il y a des tableaux qui décrivent bien cette distinction-là de responsabilité. Et parfois, les clients oublient ce degré de responsabilité-là ou qu'est-ce qui leur incombe. Et généralement, c'est ce qui va mener à des incidents dans leur périmètre cloud à ce moment-là.
Ah, c'est le. Et je pense qu'il y a cette idée de croire que j'achète un service et tout est livré clé en main. Alors, c'est partiellement vrai, hein, parce que pour ceux qui l'ont déjà fait, hein, configurer un serveur de messagerie, etc., Exchange, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'interface Exchange Online, Microsoft, ça arrive clé en main. Mais derrière, il y a quand même toute une étape de sécurisation, et ne serait-ce que mise en conformité par rapport à une réglementation auquel on serait rattaché ou des exigences qu'on se serait fixées sur site, on-prem, mais qui du coup serait moindre dans le cloud. Donc ça, c'est vraiment un point important et bien souvent, c'est quand c'est trop tard qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire ces étapes-là. Je voulais revenir aussi sur les différents types de cloud. C'est vrai que initialement, c'est la virtualisation qui a fait que on a eu beaucoup de providers, d'ailleurs d'hébergeurs qui fournissaient de l'infrastructure as a service, que ce soit des routeurs virtuels, des firewalls virtuels, des machines virtuelles. Ça s'est étendu d'ailleurs. Donc ça, c'est, je pense que c'est le service qui est le plus connu, le plus utilisé par les administrateurs. Les utilisateurs, eux, connaissent surtout le SaaS, donc le service à la demande, la messagerie, le SharePoint, le Google Slide, j'essaye de varier les fournisseurs, hein, même si on tombe toujours un peu sur les mêmes. Mais globalement, on va avoir des applicatifs qui sont dans le cloud, alors finalement, qui pourraient être des front-end web classiques, hein, mais du fait qu'ils soient hébergés chez ces cloud providers, ils bénéficient potentiellement d'autres choses. Et puis entre les deux, ce qui a été rapidement, et ce qui a fait le succès, hein, je pense aussi, de ces grands fournisseurs, c'est tout un tas de briques qui ont aidé à faire des applicatifs sans se soucier de l'infrastructure. Donc c'est la partie PaaS où il y a des bases de données qui sont euh, qui sont directement utilisables. Des moteurs de recherche, OpenSearch, des Elasticsearch, du storage qui est facilement activable. Et ça aussi, ça fait partie des composantes qui ont fait le succès. Et plus récemment, tout ce qui est containerisation, les Docker, les cluster cubes qui peuvent être managés directement par le provider cloud. Et pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'administration Kubernetes savent que c'est une tâche qui est loin d'être simple. Et j'ai l'impression, dans l'aboutissement un peu de tout ça, c'est tous les services à haute valeur ajoutée de machine learning, d'IA et puis de fonctions as a service qu'on rencontre, surtout d'ailleurs chez les développeurs plus que chez les administrateurs, et parfois même sans que les administrateurs soient vraiment au courant de tout ce qui est utilisé dans ces boutiques en ligne où on peut avoir tous ces services.
Ouais, et puis c'est un des énormes problèmes parce qu'on transfère la connaissance qui était historiquement au niveau cyber, minimalement, plus des administrateurs qui voyaient les infrastructures, donc pouvaient garder leur cheptel de façon plus serrée, quand maintenant, ben c'est les développeurs qui ont la capacité d'ouvrir et de consommer des briques qui leur permettent d'arriver à l'offre d'un service qu'ils ont développé.
Oui, et d'ailleurs, bien souvent, c'est maintenant plus le contrôle qui va être prédominant que de brider, parce que finalement, les développeurs... L'idée, c'est pas de ralentir leur créativité, mais effectivement de contrôler et éventuellement. Et d'ailleurs, il y a aussi une particularité des providers de cloud, c'est qu'ils fournissent de plus en plus de moyens de se sécuriser, de mettre en place des politiques de sécurité, de remonter ça sur des dashboards qui centralisent vraiment les événements, l'activité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a pas mal évolué ces dernières années et qui aide beaucoup à la réponse aux incidents.
Oui, ben effectivement, parce que une des clés, c'est d'avoir l'information. Là. Sans information, c'est très difficile de mener une gestion d'incident, ou même de détecter l'incident là, par ailleurs. Des fois, parce qu'il y a des incidents qui sont actifs, qui n'ont pas été détectés encore par les sociétés, donc de devoir d'amener ça comme ça. Le cloud amène aussi des éléments différentiels qu'on a par rapport à des incidents qu'on pourrait dire classiques, ou dans lesquels on est habitué, dans lequel j'ai grandi. Ça l'amène au univers. Qu'est-ce que ça ressemble un peu comme univers d'incidents et donc comment qu'on peut les aborder?
Alors les incidents, ils sont plusieurs natures. Je vais commencer par les incidents un peu plus classiques où on retombe, je dirais, dans des méthodes classiques. C'est lorsque finalement la victime a utilisé des machines virtuelles, par exemple des EC2 chez AWS, et puis s'est fait compromettre sa machine. Parce qu'elle était exposée sur Internet, il y avait un service vulnérable, un applicatif web avec une vulnérabilité connue, et s'est fait compromettre sa machine directement et l'héberger dans le cloud. Ce qui fait qu'on dit que c'est un incident dans le cloud. Sauf que finalement, qu'elle soit dans un cloud provider ou sur un ESX, un Hyper-V hébergé on-prem chez elle ou dans l'hébergeur de sa région, c'est à peu près la même chose. Et là, on retombe sur, dans un premier temps, des méthodes classiques, typiquement la copie disque, éventuellement même l'extraction du disque directement au serveur, parce qu'on peut le localiser, le serveur, dans un on-prem, et quand c'est dans le cloud, on peut copier le disque assez facilement. Donc là, déjà, on a toute une catégorie d'incidents qui sont, quand c'est des machines virtuelles, qui peuvent faire appel à des techniques classiques qu'on apprend en école et qui sont largement documentées. Là, on commence à toucher quelque chose de spécifique, c'est quand le tenant lui-même est touché par l'attaquant, soit directement, soit indirectement, d'ailleurs via une machine virtuelle, c'est pas tout à fait possible, et que là, on se retrouve finalement à devoir investiguer une application géant, qui est le cloud provider, à l'aide des outils qu'il nous fournit et qu'on aura préalablement configuré. Donc c'est typiquement des accès à des comptes, ça c'est très courant comme incident en cloud, c'est des vols de comptes, parce que souvent c'est le point de départ, c'est obtenir un premier pas dans le tenant avec un compte éventuellement non privilégié, et puis gratter les privilèges au fur et à mesure, remonter. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un policy cure sur le sujet il y a quelques temps sur les accès de CRED.
Oui, absolument.
Et bien ça, c'est une méthode qui marche très bien. Éventuellement, ça peut être aussi des accès à des clés d'API. Donc, c'est un peu l'équivalent hein, que de compte où derrière, il y a des vraies personnes. Et ça, ça va toucher le tenant. Et ça, c'est assez différent parce que du coup, on va être tributaire des journaux que nous fournira naturellement le provider de cloud. Alors, certains de ces journaux sont toujours présents. Généralement, c'est les gros journaux d'activité du tenant. Je crée un compte, je supprime un compte, je crée un nouveau service, je souscris un nouveau service. Parfois même la facturation peut donner des idées. C'est assez, enfin, il y a des fois des attaquants qui cherchent juste à faire de la crypto-monnaie, donc ils vont générer du compute et ça génère de la facturation, ce qui parfois est le point de départ hein, d'un incident de sécurité. C'est la compta. C'est assez cocasse, mais c'est un effet du cloud. Et ensuite, c'est tous les services qu'il aura pu manipuler pour conserver ses accès, pour accéder aux données. Et on se retrouve finalement, quand tout est bien configuré, à de la lecture de journaux, hein, de lecture de logs sur une console. Alors souvent, elle s'appelle Log Analytics. Alors vous mettez devant ce que vous voulez, mais la console s'appelle Log Analytics. Elle a plusieurs niveaux. Souvent, il y a un premier niveau gratuit, voilà, ce que je disais avec des journaux un peu classiques. Puis dans les versions, parce que tout ça, c'est évidemment payant. C'est plus de capacité de recherche, plus de rétention. Il y a une frontière un peu symbolique entre les 30 et les 90 jours. C'est souvent qui est un peu difficile à dépasser gratuitement. Donc, il faut généralement avoir des licences ou souscrire à des services, enfin, à des coûts supplémentaires de stockage. Et puis, éventuellement, de rajouter de la cyber, donc du threat hunting, des IOC déjà connus, éventuellement même des applications tierces qui peuvent se greffer au tenant. Et là, on rentre, quand il y a tout ça, effectivement, à la lecture, un peu comme on peut avoir pour du SOC, la lecture de journaux et de rechercher des points de départ de l'incident, qu'est-ce qui a fait l'attaquant. Il y a quelque chose qui marche très bien dans le cloud, hein, c'est de suivre l'activité d'un compte qui a été usurpé. Ça permet de globalement retracer d'une part la timeline et globalement le premier périmètre, en tout cas, qu'on peut mettre dans le giron de la réponse aux incidents pour investiguer. Soit l'attaquant s'est contenté de rester dans le control plane, c'est-à-dire vraiment dans la partie tenant, soit il a commencé à chercher à aller sur des services à plus haute valeur de base de données ou de machines virtuelles, voire même dans certains cas de remonter vers le SI sur site, parce que la plupart du cas dans les entreprises, ils vont créer des routes, des liens directs entre guillemets LAN to LAN entre le cloud et les sites. Donc ça peut être aussi un vecteur d'entrée. Ce qu'on voit parfois, hein, c'est que il y a des interfaces publiques qui sont mises sur des machines qui autrefois étaient au fin fond du SI et qui n'auraient jamais eu d'interface publique Internet. Et là, elles se retrouvent avec une, voire même parfois plusieurs interfaces publiques. Et puis tous les services, comme pas de filtrage, tous les services exposés. Et là, c'est le point de départ d'un incident éventuellement de grande ampleur. Les rançongiciels scannent en permanence ce genre de défauts pour essayer de rentrer sur les systèmes. Donc on a vraiment un nouveau monde quelque part qui a protégé, qui peut faire partie de l'investigation. Ce qui peut sembler, alors c'est plus complexe, et en même temps, ça peut nous aider, nous en tant qu'analystes en incident, parce que du coup on bénéficie aussi de ces services. Si on suppose que le cloud provider est de confiance, on peut très bien imaginer, ça c'est une pratique qui est aujourd'hui assez répandue, c'est au lieu de tout télécharger chez soi pour faire l'analyse, alors ce qui est une pratique hein, parce que ça permet de retrouver ces outils, mais on peut aussi imaginer se créer un petit environnement d'analyse dans le cloud, éventuellement dans le même cloud provider, éventuellement dans un autre tenant, et se partager comme ça les disques, les éléments directement de tenant à tenant, et ça accélère grandement la réponse incident. Donc ça, c'est une pratique qui est un peu différente, qui permet d'aller généralement plus vite, notamment dans les étapes de collecte, qui sont toujours les plus compliquées en réponse aux incidents, quand les logs existent. Et il y a un deuxième point, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est un peu s'automatiser grâce à toute la mécanique que proposent les cloud providers. Tout ce qu'on appelle infrastructure as a code, donc c'est le fait de monter des machines virtuelles comme ça à distance, juste en scriptant quelque part ce que l'on veut faire, ce qui serait très laborieux à faire potentiellement sur un site classique.
Oui, absolument. Puis c'est un des avantages d'ailleurs. Fait que c'est bien aussi, ça serve en réponse en incident, se faire ce genre de choses-là. C'est bien que tu aies spécifié dans un autre tenant à côté parce que sinon, si on fait l'analyse dans le tenant dans lequel qui est déjà, en tout cas, présumé compromis, on peut avoir pas un problème.
D'ailleurs, souvent, la première étape, quand on a un incident sur une VM, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que ça atteint le cloud? Et quand on a un incident dans le tenant, dans le cloud, on cherche à savoir si ça atteint les VM. Souvent, c'est un peu la logique. Et la réponse, souvent, c'est de faire un petit hunting, un petit cyber threat hunting pour savoir est-ce que, voilà, je pose tout un peu à plat. Est-ce qu'avec mes premières règles de détection, les premiers éléments que j'ai, est-ce que l'attaquant s'est cantonné à cette VM? Est-ce qu'il s'est cantonné à cette région? Parce que aussi, il faut raisonner par région. Généralement, on peut être complètement, on peut être braqué sur une région particulière d'un cloud provider et oublier qu'il y a d'autres régions qui peuvent être concernées par l'incident. Ça, c'est vraiment un point de vigilance sur les incidents de sécurité et d'ailleurs potentiellement tomber sur des contraintes un petit peu différentes parce qu'on va tomber sur d'autres entités qui ont des contraintes même légales un peu différentes ou qui ont leur prestataire. Donc ça peut vite être complexe quand même ces incidents cloud sur des entités qui se sont répandues sur beaucoup de data centers.
Ouais, c'est courant. Puis là, ça implique aussi la notion de multi-cloud. C'est-à-dire que c'est un incident qui traverse les frontières de plusieurs fournisseurs d'une même compagnie qui s'est prémunie de plusieurs. Puis c'est pas rare d'avoir ce genre de configuration-là, soit par l'acquisition de solutions spécifiques ou l'université qui est obligée. Il y a même multi-régions aussi, d'ailleurs, qui sont très particulières parce que les régions ne se répliquent pas nécessairement entre eux autres. Donc, il peut y avoir un incident dans une région, pas dans l'autre, ou ça peut, mais pas de la même façon, ou on peut avoir d'autres considérations qui sont très différentes.
Ouais, et puis, il y a un effet de volume aussi, du coup. C'est-à-dire que comme il suffit de cliquer globalement pour avoir des machines, des services, et que parfois la limite n'est que financière, hein, on peut se retrouver et des volumes extrêmement importants à traiter. Et là, les outils sont tels qu'ils sont. Ça, ils vont dépendre hein, entre un Sentinel, un Chronicle, un BigQuery. Enfin, ça va dépendre un peu des outils, mais c'est vrai qu'on dans tous les cas, il y a parfois un volume de données qui est important. C'est pas comme si j'avais une quantité de logs où je pouvais globalement tous les faire plus ou moins visuellement. Là, il faut vraiment être méthodologique pour traiter ce type d'incident.
Ouais. Ouais, mais justement, puis là, tu parlais des outils qui sont disponibles sur les plateformes. Ceux-ci ont des coûts aussi, fait qu'il faut faire aussi un peu attention quand on va faire de la réponse parce que c'est ça qui est un peu, non habituel. Donc, quand on est plus sur site, on va juste traiter, puis il n'y a pas de coût de traiter l'incident. Là, il va y avoir des coûts associés. Donc, de faire attention aussi, les requêtes qui pourraient être faites pourraient devenir de représenter beaucoup d'argent en termes de fonctionnement.
Ah ben, ne serait-ce que sortir les données du cloud, ça peut représenter un coût. Si on veut, alors moi, il y a un type d'incident qui est assez classique, hein, c'est les incidents sur les boîtes aux lettres, on pourra en reparler, mais c'est les incidents sur les boîtes aux lettres Microsoft. Bien souvent, les personnes ne sachant pas trop, ou ce sont des petites structures, des PME, vont prendre les licences les plus basiques, se retrouvent avec très peu de journaux, et alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause et effet, mais en tout cas, la conséquence, c'est j'ai toujours vu des augmentations de niveau de licence à la suite d'incidents, parce qu'il y avait une incompréhension de ce que ça a apporté en termes de sécurité. Et là, s'est rendu compte de l'importance, ne serait-ce que les durées de rétention, par exemple, ou la verbosité des journaux.
Ouais, ben le cas des M365. Puis là, ça, c'est un univers en soi, cet univers bureautique-là, de Google ou Microsoft, dans lequel, justement, les. En tout cas, moi, ce que j'ai vu principalement, la porte d'entrée s'exécute-là. Les attaquants, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent, ne sont pas nécessairement toujours très professionnels. On a plus tendance à avoir du hit and run. Là. C'est des gens qui arrivent, ils détruisent tout, puis ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont exécuté ce qu'il y avait à faire. mais l'importance des journaux, puis c'est très particulier les journaux M365 et Google Workspace, si on descend des journaux plus classiques, si on veut, ceux des environnements d'infrastructures de code qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on est habitué de voir comme type de journaux.
Oui, oui, les journaux sont vraiment nature différente. Il y a des journaux réseau, par exemple, qui sont par défaut pas activés, mais qui sont intéressants pour la partie IAS. Sur la partie Microsoft 365, alors c'est toute la subtilité dans le jargon Microsoft, mais ce sont des capacités qui sont présentes, mais qui sont pas forcément toujours activées par défaut, selon le niveau de licence. Donc ça, c'est un point qui est important. Le côté readiness pour la réponse aux incidents, elle prend tout son sens sur Microsoft 365. On retrouve pareil tous les SharePoint, tous les S3, les journaux sont pas forcément activés non plus. Donc savoir s'il y a une exfiltration, du coup on se réfère à des journaux éventuellement réseau ou des traces d'éléments, mais on peut rester aussi d'ailleurs il y a beaucoup d'incidents cloud qui restent sur une non réponse. On sait qu'il y a eu un incident, mais que ce soit la rétention ou la vabosité des journaux empêche d'aller plus loin. Alors que tout est là. Donc, à un moment donné, est-ce que les choses vont évoluer? Ça, je sais pas. C'est parfois le cas. Hein. Il y a Microsoft qui a eu un incident. C'était quoi? C'était en septembre de l'année dernière. À partir de clés qui avaient été volées. Alors, on sait pas trop comment. Peut-être avec un poste d'un employé. Et qui, du coup, avait été utilisé. Donc là, c'est quelque part une partie des secrets de Microsoft qui avait été dérobée pour attaquer des boîtes aux lettres, et ça a généré une augmentation de la verbosité des journaux par défaut chez Microsoft. Ou le MFA. Le MFA, c'est un bon exemple. La plupart des attaques se font par des logins mot de passe, parce que le mot de passe, c'est le même que le site de cuisine qui s'est fait compromettre. Et du coup, les attaquants rentrent. Depuis maintenant, le MFA, c'est quelque chose d'activer par défaut énormément d'endroits, et je pense que d'ici 2025 ce sera quasi généralisé, parce que ça évite aussi beaucoup de... Enfin, ça coûte cher, hein, tous ces incidents à tout le monde, donc ça permet d'augmenter quand même significativement la résistance de ces services. Mais c'est vrai que les journaux sont assez différents, et d'ailleurs bien souvent si vous prenez pas les templates des machines virtuelles qui sont proposés par les cloud providers, vous n'avez pas les journaux du système non plus. Vous devez vous reposer soit sur un EDR supplémentaire, donc c'est des coûts supplémentaires, soit vous imaginez que c'est le cas, mais en fait vous n'avez pas de journaux, et ça aussi parfois on s'en rend compte beaucoup trop tard quand la machine est détruite ou que les preuves sont effacées. Ça c'est un point qui est important et qui n'empêche pas toutes les démarches qu'on peut avoir à côté, hein, de SIEM. D'ailleurs, beaucoup de SIEM ont une version cloud pour justement bénéficier de capacités autres, de pas mettre tous les œufs dans le panier, si vous voulez, de pas avoir tout du Microsoft ou tout du Chronicle, et éventuellement d'avoir d'autres composants de sécurité. Ça peut être une stratégie, ça fait partie des réflexions des uns et des autres à avoir, mais ça permet aussi parfois d'avoir des journaux ailleurs. Et qualifié par d'autres qui peuvent répondre à nos besoins aussi.
Ouais, tout à fait. Puis ça, c'est bien que tu mentionnes le point des templates standards des clouders, parce que ils ont leur agent qui installe dedans et qui amène une gestion supplémentaire des avantages, comme tu mentionnes, qui, si on va faire ça de façon autonome, ben on bénéficiera pas de ces capacités-là qui nous sont données par les choses. Et effectivement, l'analyse des journaux a beaucoup changé avec l'arrivée du cloud. Puis derrière, comme tu mentionnes très bien, les grands fournisseurs qu'on nommera pas, mais qui sont pas de ceux des fournisseurs, offrent aussi des capacités en dehors qui nous permettent justement de faire des analyses hybrides entre ce qui est sur site, ce qui est dans le cloud, tout ce qui valide là-dedans, comment on traite ça et comment on traite ou même traiter le multi-cloud si on est dans des contextes comme ça où on est capable d'avoir une vision relativement uniforme de l'ensemble, parce que ça devient une très grande difficulté d'être capable de voir à une seule place toute l'information utile pour la gestion de l'incident, puis ça peut devenir très ardu des fois de voir dans des petits raccoins ou dans lesquels un attaquant s'est peut-être caché.
Oui, on parle Micro 365, il y a aussi toutes les applications qui peuvent se rattacher externes. Alors ça, il y a celles qui sont décidées par les administrateurs, mais il y a celles qui sont décidées par les utilisateurs eux-mêmes, qui peuvent être très créatives dans les applications qu'ils veulent mettre sur leur, avec des droits parfois un peu farfelus. S'il y a des, voilà, si vous êtes administrateur, s'il y a des, parmi les personnes qui nous écoutent, les gens qui administrent des tenants Micro 365, je vous invite à regarder de temps en temps le, la partie applications tierces qui ont des privilèges. C'est toujours, enfin, ça peut être un point d'entrée. D'ailleurs, ça l'est parfois. On a déjà eu des incidents où le point d'entrée, c'est une application qui se faisait passer pour une application légitime parce qu'elle a le même logo. Et l'utilisateur n'a pas fait attention, a cliqué, il s'est fait dérober. Enfin, l'attaquant a eu un accès à sa boîte aux lettres. Donc, ça complexifie aussi beaucoup la tâche pour l'administrateur qui est déjà, lui, en plus, en train, on l'a dit, d'essayer de comprendre le vocabulaire, de rattraper tous les nouveaux services qui lui tombent dessus. On a parlé de multi-cloud aussi, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des relations de confiance aussi qui ne sont pas toujours très claires. Enfin, pas très claires, c'est-à-dire qui peuvent être décidés sans que ce soit bien compris les implications que ça peut avoir d'un côté du GitHub, de l'Azure en tant que d'annuaire, un AWS pour l'hébergement. Donc on se retrouve avec plein de parties qui ont tout un peu leur spécificité. Et là, ça peut devenir assez titanesque à sécuriser. Et au niveau de l'incident, de remonter le fil, on peut être sur des incidents de grande ampleur au sens en volume, pas forcément en complexité, parce que généralement ça peut être des incidents qui sont très simples. Hein. L'attaquant, il est parfois un peu fainéant, hein, donc il utilise juste les permissions, les privilèges qu'il a. Il rebondit jusqu'à trouver ce qui a de l'intérêt pour lui. Mais essayer de remonter tout ça, de faire la chronologie de tout ça, c'est un sacré boulot et ça demande aussi l'outillage du côté du CERT.
Ouais, et puis tu as tout à fait raison. La fainéantise est quand même assez présente dans les choses. Quand je parlais de Hit and Run, c'est un exemple où ils ont acheté des accès dans un système, puis l'autre est arrivé, puis il a juste fait très rapidement, ce qui a fait que c'était un incident de très faible complexité, qui était très facile à mettre en œuvre, mais il a fallu s'assurer qu'il n'y avait pas validé d'autres choses autour. Parce qu'une fois qu'il est rentré, un des problèmes, c'est que les permissions, puis si on parle du M365, sont quand même assez larges. Et quand on embarque dans dans Azure ou AWS, on peut avoir une certaine difficulté à mettre une permission cohérente et restrictive. Donc, les zones de déflagration deviennent très, très grandes et ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour l'attaquant pour arriver à ses fins.
Ouais, quelque chose qui a un peu volé en éclat dans le cloud, même si tout est possible, hein, mais et dont les administrateurs réseau système étaient très à cheval sur un réseau on-prem classique, c'est la segmentation des réseaux, d'essayer de cloisonner. Et en fait, on retrouve rarement ça dans le cloud. Ça nécessite soit de la maturité de la part des administrateurs, soit des formations, soit d'avoir des incidents pour commencer à essayer de reproduire ça, mais au niveau des ACL, au niveau des permissions, au niveau des identités des personnes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et on n'est plus sur des choses quelque part un peu physiques qui segmentent et qui protègent.
Quand vous arrivez sur des incidents, on va prendre peut-être des exemples un peu plus concrets, puis vous avez justement des situations comme ça, comment vous faites pour récupérer rapidement les journaux, récupérer les éléments comme ça, comment repérer puis faire le premier tour de roue qui est nécessaire pour connaître l'ampleur potentielle de l'incident?
Alors généralement, il y a un point de départ. Qui peut être plus ou moins précis techniquement, c'est-à-dire qui peut donner une idée de par où l'attaquant est passé. Ça peut être une alerte qui est levée ou un compte qu'on se rend compte qu'il est utilisé alors qu'il ne devrait pas être utilisé ou qui n'a été créé par personne dans l'entreprise. Ça, c'est un point de départ qui est quand même assez fort et qui permet comme ça de remonter en regardant l'activité de ce compte, de voir depuis quand, voir depuis où, de l'année des IOC, et puis itérativement, comme ça, faire tourner la roue des FIR, et puis essayer de stabiliser un peu une situation en mode opératoire de l'attaquant. Le plus compliqué, c'est quand il n'y a pas de point de départ. Je prends un exemple très simple qu'on a eu il n'y a pas longtemps, c'est la base de données, elle est en vente sur Internet. Donc on sait que la base de données, à un moment donné, a été volée. On ne sait pas comment, elle est hébergée dans le cloud. Et toute la question, c'est comment a fait l'attaquant. Donc, on est plus dans une démarche de hunting, c'est d'audit presque, de comprendre c'est quoi les points faibles, par où a pu passer l'attaquant, et en même temps de passer le tamis sur des IOC bien connus, sur des mauvaises pratiques, pour essayer de voir ce qui a pu être utilisé. Sachant que ça peut être très vaste, hein. La base de données potentiellement elle a été copiée par un en pré-prod ou sur un poste de travail, donc faut aussi faire l'analyse d'un poste de travail.
Enfin, en fait, il y a personne qui fait ça.
Il peut se passer plein de choses. Et d'ailleurs, c'est un point, moi je dis souvent, hein, c'est qu'un pour son incident, c'est pas un audit. On n'est pas là pour juger, on est là pour avancer, trouver des solutions. Donc, ça fait partie des pistes envisagées de se dire, quelqu'un à un moment donné a un peu merdé et comment on peut mieux évaluer les impacts. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi qui ont été volées? Donc, ça dépend un peu de tout ça. Et tout ça, normalement, ça remonte sur quand même, à un moment donné, il y a un compte ou plusieurs comptes qui sont impliqués, qui ont été volés ou qui ont été créés. Et cette vision par compte temporelle, et on adosse à ça des IOC, voire même on contextualise un peu avec des IOC externes, ça permet généralement de délimiter rapidement le périmètre, ça c'est important, depuis quand l'incident a eu lieu, et du coup en ayant une connaissance du mode opératoire, ce qui permet de se dire que les premières mesures qu'on a prises pour contenir, juguler un peu l'attaque sont les bonnes, ce qui n'empêche pas souvent de faire un petit audit après, un petit test d'intrusion pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui auraient été oubliées. Mais c'est un peu l'idée, ouais.
Ouais, ben ça ressemble un peu plus à du forensic qu'à de la gestion d'incidents dans ces circonstances-là, puisque là, vous êtes plus à la recherche de preuves dans un contexte que vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé.
Ben, la partie gestion incident, elle va plutôt être sur la gestion des priorités aussi, parce qu'il y a beaucoup, il y a des volumes importants. C'est de se focaliser sur le plus probable aussi, sur ce qui nous semble, de par notre expérience, de par le contexte, le plus important à traiter, de faire le lien avec le légal, la communication aussi, parce que généralement, il y a des données personnelles qui sont impliquées, et bien mesurer les impacts. Hein. On a parfois des incidents qui partent très fort, compromission d'une base de données, encore une fois, dans le cloud qui est hébergé, un MySQL qui est hébergé, et au final, on se rend compte, après moult analyses, qu'il y a juste, entre guillemets, un crypto-mineur qui a été installé sur ce serveur. C'est-à-dire que l'attaquant ne savait pas vraiment où il était. Il avait beaucoup de choses à apprendre et finalement, il s'est contenté. Et tant mieux, quelque part, c'est presque un exercice grandeur nature avec peu d'impact, mais ça permet de... Et je t'assure, après, tout le monde est sensibilisé. Hein. Quand tu pars en crise et qu'à un moment donné, ça se dégonfle le soir, le dimanche soir, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup moins d'impact, ça fait une bonne sensibilisation. Les services en SaaS aussi hein, sont des incidents très courants. Le vol de mots de passe, les boîtes aux lettres Microsoft. Ben, le classique, c'est les business email compromise. C'est la boîte aux lettres qui est compromise, qui est utilisée sur un client, sur un fournisseur ou pour faire des fausses factures, changer des RIB. Enfin, ça, c'est le grand classique. Pour le coup, c'est des attaquants souvent qui sont assez organisés, qui parlent la langue de la boîte aux lettres qui a été compromise. Nous, on a des francophones où le français est même très bon. Ils connaissent bien les circuits financiers aussi. Ils surveillent les calendriers, ils surveillent quand les personnes sont en vacances. Enfin, c'est bien rodé, hein, là, c'est professionnel. Mais encore une fois, ce sont des attaquants qui, une fois qu'on connaît leur mode opératoire et qu'ils sont détectés, ensuite c'est assez facile entre guillemets de retrouver. Encore faut-il avoir des journaux. Donc, dans Microsoft 365, avoir les journaux, c'est globalement, ça se résume à avoir la bonne licence. Il est possible de configurer un peu le tenant pour enrichir tout ça, même avec des licences de base, mais ça reste quand même après un point avec les licences, certainement pour des questions de volume, des questions de voilà, ça coûte de l'argent d'une manière ou d'une autre à Microsoft, faut qu'il le récupère d'une certaine manière, et puis éventuellement d'avoir d'autres systèmes, ça permet d'éviter les phishing par exemple. Très compliqué à faire sur la base des journaux web, hein, des journaux, pardon, mail. Vous avez un tas de mails, savoir s'il y a un phishing. Si en amont, il y a un outil qui vous a déjà fait le travail avec un tas de moteurs, ça peut aider. Donc, les incidents de boîte aux lettres ou en SaaS aussi. Aujourd'hui, la messagerie, ça reste quand même le plus évolué. On pourrait imaginer qu'à terme, les d'autres applications SaaS soient aussi évoluées. Mais il y a quand même des outils qui sont là pour aider l'investigation.
Oui, puis c'est ça, de vous, de votre côté, est-ce que vous avez des outils privilégiés pour faciliter votre travail ou des approches où tu parlais de infrastructure as a code qui permet justement de monter rapidement certaines infrastructures. Y a-t-il d'autres éléments comme ça qui peuvent justement accélérer et réduire la douleur de du travail d'investigation?
Alors, la première réponse, c'est un outil qui est magique, que je conseille à tout le monde, qui demande un peu d'apprentissage, c'est Python. C'est-à-dire que globalement, en fait, on est face à des infrastructures qui sont hautement programmables, qu'on peut interroger. Donc, au final, un langage de programmation, alors JPython ou celui que vous préférez, peut déjà aider, même PowerShell, si vous êtes motivé, mais peut aider. Ensuite, sur GitHub, il y a pléthore d'outils, hein, il y a des outils d'Instant Response, des Hawk, l'ANSI en France a publié aussi des outils pour collecter les journaux. Alors souvent, c'est quand même dans une démarche de récupérer les journaux, de les rapatrier. Sinon, ça veut dire utiliser. Et d'ailleurs, souvent, tu poses la question, qu'est-ce qui est le plus rapide? Le plus rapide, c'est de commencer par travailler directement dans le cloud, c'est-à-dire d'utiliser les outils d'analyse qui sont fournis par le provider. Ça donne des premières pistes. C'est quand même... aujourd'hui, un compte AWS, Microsoft ou GCP qui est compromis, généralement, il lève quand même une alerte parce que la personne, elle s'est connectée depuis une localisation qui n'est pas prévue, parce que au niveau des horaires, ils vont remonter que c'est une authentification qui est inhabituelle ou si elle se connecte en parallèle de la personne légitime, ça peut faire ce qu'on appelle des voyages impossibles. Donc, la personne se connecte depuis des endroits qui sont géographiquement éloignés. Donc, il y a quand même souvent des alertes et de commencer par utiliser les outils proposés par le provider de cloud, c'est un moyen d'aller vite. Et ensuite, d'utiliser ces outils supplémentaires qui vont être soit en mode pool, ils vont récupérer des données et après, on les analyse avec nos outils, des Elastic, Elasticsearch, Grep, hein, enfin, ça reste le meilleur outil d'investigation. Ou alors, c'est des outils qui vont se connecter aux API et qui vont chercher des défauts de configuration qui vont plutôt rester dans le cloud, entre guillemets, hein, même s'il y a toujours des échanges de données, jusqu'à l'étape où ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de monter des machines directement dans un tenant à côté et de faire l'analyse à l'ancienne, mais au plus proche de la donnée. D'ailleurs, c'est souvent ça, hein, dès que les données dépassent une certaine taille, la réponse incident, le forensic qui se fait au plus proche de la donnée pour éviter ces va-et-vient, quitte à avoir deux démarches en parallèle pour après, encore une fois, des fois avoir ses outils, sa base d'IOC qu'on peut pas voir partir dans le cloud. Alors, parce qu'après, il y a d'autres considérations dont on n'a pas parlé, mais c'est que les données, elles sont aussi, elles sortent de votre SI, hein. Donc, quand vous avez votre outil, nous, on a quelques développements internes, on est toujours très précautionneux à les sortir sur des environnements qu'on maîtrise moyennement ou qui sont supposés compromis. Alors parfois on les retrouve sur VirusTotal, bon bah c'est comme ça, mais ça fait partie aussi des précautions qu'a un analyste, ouais, et puis également de tester les outils une fois sur des tenant tests pour voir s'ils tiennent la charge. Il y a des fois des tenants qui sont tellement gros qu'il y a tout un tas d'outils qui ne fonctionnent plus de par l'algorithmie quelque part, la façon qui sont implémentés ne tiennent pas des gros tenants où il y a plusieurs centaines de milliers de comptes. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé d'avoir des plans B qui sont de réimplémenter une partie de ces scripts avec un langage de programmation ad hoc.
Ouais, j'avais vu notamment dans les configurations M365 qu'il y a des délais de récupération qui peuvent être très longs si les tenants sont plus gros. On parlait du nombre d'utilisateurs notamment. Peut être un stoppeur assez important à la vélocité que la gestion d'incident peut avoir pour arriver à résoudre le plus rapidement, parce que c'est un peu ça aussi, de résoudre rapidement le dit incident.
Oui, et d'ailleurs, dans certains cas, le débit, je pense qu'il est volontairement bridé. Quand je vous mets au défi de récupérer 90 jours de journaux Microsoft 365 avec l'interface graphique, enfin l'interface web avec des downloads, hein. Déjà vous êtes limité à un certain nombre d'items, je crois que c'est 10 000 ou 100 000, hein, quelque chose comme ça, et puis vous téléchargez en kilo-octets, hein. Alors au début on peste contre son fournisseur d'accès et puis on se rend compte que c'est juste que c'est pas le mode opératoire qui est prévu, faut plutôt passer par Graph ou directement avoir une application rattaché au tenant qui fait le travail. Donc c'est, il y a quand même des petites particularités. Il n'y a que l'expérience là qui fait avancer les choses. Et effectivement, là, je te rejoins, ça nécessite d'être d'être rapide, hein, en rapport à l'incident, les premières 24 heures sont déterminantes pour poser des premiers diagnostics et avoir les mesures qui permettent vraiment d'empêcher l'attaquant de revenir, parce que il y a beaucoup de portes d'entrée possibles dans les cloud providers, et parfois réinitialiser le mot de passe, ça suffit pas. Il faut vérifier les permissions, il faut vérifier qu'il n'a pas laissé des portes de rebais, qu'il ne laissait pas créer des comptes, des API. Enfin, ça peut être très, très vaste.
Oui, puis là, la question connexe à ça, c'est l'expertise que vous devez avoir. C'est pas une personne n'est pas capable de maîtriser l'ensemble de ce que c'est. Vous allez normalement avoir peut-être des équipes qui se spécialisent dans certains secteurs, ou toi, par exemple, tu es capable d'absorber dans ta tête toutes ces diversités-là de ces différents environnements-là.
Alors, après ça, c'est ma vision des choses. Hein. C'est quelqu'un qui fait la réponse d'incident au sens large. Je ne vais pas entrer dans les débats. Des fois, on sépare hein, les rôles forensic, incident handler. Bon, de manière générale, c'est important qu'elle connaisse un peu tout globalement de comment ça fonctionne. Et sachant qu'il y a vraiment des choses communes dans les providers cloud. Je connais pas, par exemple, IBM Cloud. Je n'ai jamais rencontré, mais je suppose que ça fonctionne globalement comme les autres. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pars de ce principe-là. On a quand même la chance aujourd'hui, c'est très bien documenté, en tout cas suffisamment pour commencer les investigations. Donc généralement, on va être sur des profils de personnes qui connaissent un peu tout et qui sont capables rapidement de monter en compétences, qui sont bien formés pour reproduire des schémas qu'ils ont appliqués dans d'autres incidents sur un nouvel environnement. Et au fur et à mesure de l'expérience, évidemment, se créent des spécialités. Donc, quelqu'un qui a déjà fait 3 incidents sur GCP, ben, il sera pas plus calé que celui qui en a jamais fait, et moins que celui qui en aura fait 10, parce qu'il aura vu l'évolution des choses, des cas particuliers. On est toujours, dans le plan d'incident, on est toujours biaisé par son expérience. C'est-à-dire que c'est à la fois un avantage, c'est que ça permet d'anticiper des choses, et en même temps, on a envie de reproduire ce qu'on a déjà vu, et ça, c'est un biais qui est énorme et qu'il faut essayer de. C'est pour ça que c'est bien d'alterner ou d'avoir des binômes ou des trinômes ou carrément une équipe qui est constituée de compétences diverses et variées, des gens qui connaissent des environnements et puis d'autres. Et puis on a parlé du multi-cloud, donc là, ça nécessite d'intervenir de plusieurs personnes. On peut avoir du malware aussi à un moment donné qui arrive, donc ça veut dire avoir des compétences de compréhension de malware, voire de rétro si le malware est un peu costaud ou inconnu, et de système, c'est-à-dire qu'on peut retomber, je parlais tout à l'heure de la machine de l'admin qui a une copie, voilà, peut-être que ça vient de lui, il a un infostealer sur son poste, ben, ça nécessite de comprendre son environnement. C'est clair qu'il y a des choses qui sont compliquées, hein, suivre tous les services d'Amazon, je pense que c'est un travail en soi. C'est très compliqué, il y en a tout le temps. Ceux de Google aussi, tous. Et également, toutes les technos de containerisation, ça évolue très vite. On a des incidents sur Docker, sur Kube. Alors, chez Synactive, moi, j'ai la chance, c'est qu'en allant dans le couloir d'en face, j'ai mes amis pentesters qui ont, eux, le regard inverse. Ils ont la même difficulté, mais du côté de l'attaquant, c'est-à-dire de maîtriser rapidement un environnement pour en connaître ses failles et savoir comment je rentre, soit par des défauts de configuration, des défauts d'implémentation ou de design carrément du système. Et moi, à l'inverse, ça me permet de me conforter en me disant, tiens, sur cet environnement, toi, tu ferais comment ? Donc de croiser quelque part le regard, et ça c'est extrêmement important aujourd'hui, et d'ailleurs ça c'est un point, hein, c'est qu'il y a les technos sont vastes pour l'attaquant ou la défense, et de savoir les deux, c'est encore un autre niveau. C'est pour ça que c'est bien aussi des profils qui ont fait de la défense qui vont dans l'attaque ou inversement, pour changer de point de vue, parce que des fois du côté de la défense on peut avoir une vision un peu réductrice. Ça peut être un peu réducteur de se dire, bon, voilà, il a les credentials, c'est bon, il peut faire ce qu'il veut. Alors qu'en vrai, c'est pas tout à fait ça. Et à l'inverse, des fois, on peut surestimer ou sous-estimer la défense en se disant, bon, là, si je fais telle manipulation, ça va se voir tout de suite. Et des fois, moi, je leur dis, mais attendez, aucun SOC ne détecte ce que vous êtes en train de faire. Ou à l'inverse, ça, ce que vous faites là, c'est vraiment une anomalie. C'est, les admins ne font jamais ça, ça va être flagué direct. Donc, c'est bien de croiser ces points de vue-là. Et c'est ce qui fait que, quand on est face à une situation inconnue, c'est l'intelligence de l'équipe qui rentre en jeu.
Oui, tout à fait. Puis, pour en avoir géré, moi, je suis plus le généraliste qui connaît partout, mais qui me fait accompagner de plein de spécialistes de ce genre-là. Fait que j'étais un peu curieux de voir comment vous abordez la chance. Puis là, c'est sûr que vous avez la chance, en plus, d'avoir des équipes de reverse, des équipes de pentest aussi qui peuvent venir enrichir la gestion aux incidents. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais discuter?
Bah, y a un point qui est vraiment important. Moi, je pense qu'il manque, c'est la préparation aux incidents sur le cloud. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a évoqué en fait au début, c'est que les personnes qui achètent des services en cloud pensent vraiment que c'est configuré aux petits oignons pour leur cas d'usage. Alors que c'est pas vrai. Il faut vraiment déjà avoir des compétences, donc avoir des personnes qui sont formées ou conformes à ces nouvelles techno. Faut pas parachuter le choix d'un cloud provider sans en parler aux équipes techniques. Faut au minimum qu'elles soient préparées. Et du coup, préparer aussi le terrain, et ça va avec la gestion de crise, hein, alors le sujet du moment, la résilience, etc. Enfin, ça va avec tous ces sujets-là, c'est de se dire, à un moment donné, les choses peuvent m'échapper, parce que je suis quand même sur des technos qui évoluent vite, qui les vulnérabilités aussi, qui sont exposées. Et voilà, il faut se préparer, avoir des journaux, des plans de reprise, et puis quelques bons réflexes aussi. C'est sûr qu'on va pas débarquer dans le data center de Microsoft pour débrancher tous les câbles réseau. Hein. Donc il faut avoir des plans des fiches réflexes qui soient associées vraiment à cet environnement.
Absolument. Puis c'est un des éléments très importants puis qui facilite la vie de réponse à l'incident, là, justement, quand tout ça est correctement mis en place et on ne doit pas le faire à la volée ou.
Ah, mais le nombre d'incidents dans le cloud où, voilà, on n'a pas tous les journaux ou si l'incident il a lieu il y a 100 jours, c'est fini. Si rien n'a été mis en place ou si vous n'avez pas les bonnes licences, c'est fini. Donc, c'est régulier.
Ouais, ça fait la différence pour un incident qui est une fin heureuse ou un incident qui a une fin un peu moins heureuse pour ceux qui le suivent. Ça fait un bon tour. Je te remercie énormément. C'est très intéressant ce genre de choses-là parce que justement, ça amène la saveur du jour. Et comme tu le mentionnes bien, les gens sont peu préparés pour affronter la saveur du jour. Donc, on a encore une étape d'amélioration pour aider la gestion des incidents et à terme, essayer de réduire le nombre de tests.
Je te remercie en tout cas pour l'invitation. C'est avec plaisir.